sporadiques à vous faire découvrir. On vous dit à dans 15 jours, on vous fait plein de gros bisous 100% métallique, 100% rock'n'roll, et on vous dit bye bye.
Oh, d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.
Des idioties de nos jours où tout le monde réfléchit profondément, c'est le seul moyen de prouver qu'on a une pensée libre et indépendante. Et ça, Mireille, ça vient d'où ?
De l'arrache-cœur, donc écrit par Boris Vian.
Voilà, attention, c'est pas l'attrape-cœur de Salinger. Hein.
Non.
Attention, là on est bien chez Boris Vian pour l'émission numéro
72.
Voilà, la Sarthe.
Alors, Boris Vian, il est né le 10 mars 1920 à Ville d'Avray. Donc, il est écrivain, poète, parolier, ingénieur, chanteur, critique musical, musicien de jazz à la trompette et directeur artistique français. Voilà, donc il a une palette...
Incroyable.
Hein, voilà. Donc,
et il est mort en 59 à seulement 39 ans. On se demande comment il a fait. Hein.
Alors, s'il est ingénieur, hein, formé à l'école centrale, Vian s'est aussi adonné aux activités de scénariste aussi, hein, traducteur anglais et américain, de conférencier, d'acteur. Bon, il a eu des petits rôles, mais enfin, quand même. On peut le voir dans quelques films. Et de peintre aussi, et de chanteur.
On dirait que c'était un polymathe. Là, je t'épate, parce que tu l'as utilisé à propos de je ne sais plus quel auteur dans une émission précédente. Mmh. Un polymathe, c'est quelqu'un qui est expert dans des domaines divers, aussi bien les sciences que les arts.
Alors, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, il a publié plusieurs romans dans le style américain, parmi lesquels « J'irai cracher sur vos tombes », qui fit scandale et qui lui valut quand même un procès retentissant. Alors, si les écrits de Vernon Sullivan ont attiré à Boris Vian des ennuis avec la justice et le fisc, ils l'ont enrichi à tel point qu'il disait que Vernon Sullivan faisait vivre Boris Vian. Il a utilisé d'autres pseudonymes aussi, hein, alors parfois sous la forme d'un anagramme comme « Bison ravi » ou « Brise-avion », pour signer une multitude d'écrits.
Oui, alors on peut peut-être rappeler que Vernon Sullivan était censé être un auteur noir américain. Vian se présentait comme son traducteur, hein. Oh. Évidemment, c'est un petit peu de la triche. L'éditeur qui manquait d'argent avait demandé à Vian d'écrire un livre dans le style de Tropique du Cancer d'Henry Miller. Et le livre est en fait une sorte de canular qui dénonce le racisme en vigueur aux États-Unis. Oh. D'ailleurs, ça pourrait toujours être d'actualité.
Oui, et... les choses n'ont pas tant évolué que ça.
Voilà, donc c'est l'histoire d'un noir américain qui se venge de la mort de son frère en tuant deux jeunes femmes blanches issues de la bourgeoisie. Il y a des scènes de sexe dans le livre, de la violence. Donc il a été attaqué, mais vraiment attaqué, hein, Boris Vian.
Oui, très violemment.
Très violemment, notamment parce qu'on appelait le cartel d'action sociale et morale, qui était dirigé à l'époque par un architecte protestant, Daniel Parker. Et il aura du mal à s'en mettre financièrement. Ce qu'on oublie un peu, parce qu'en fait, il n'était pas lu de son vivant tellement.
Bah oui, il a surtout été reconnu plus dans les années 60, 70.
De manière posthume, ouais. Tout à fait.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite un premier petit texte. Alors, vous verrez, les textes, hein, sont souvent assez... comment on peut dire
Piquant.
Piquant, voilà, c'est ça. voilà. Alors, donc, il y avait une revue, donc Les Temps Modernes, dans laquelle il signait une chronique du nom de Chronique du Menteur. Et donc, cette chronique qu'on va vous lire aujourd'hui, elle date du 9 juin 1946. Et elle s'intitule Étoiles sans lumière.
Étoiles sans lumière d'Edith Piaf. Malgré l'absence complète de metteurs en scène français de réel talent, Marcel Carné et Georges Lacombe sont, on le sait, américains, André Cayatte est apatride et Hugo H. Buisson n'est pas metteur en scène. On voit heureusement de temps à autre une production se signaler par ses qualités inopinées émerger, tel un intersigne, de la masse de navets à la grosse dont la médiocrité lui sert de repoussoir. C'est le cas d'Étoiles sans lumière, le nouveau film d'Édith Piaf avec Marcel Blisten et Antoine. Rappelons qu'Édith Piaf, autrefois la môme Piaf, vient de se faire anoblir par le pape moyennant l'enregistrement de Minuit chrétien avec Alix Combel au ténor et se nomme maintenant Baronne Piaf. C'est un caractère singulier de cette figure bien parisienne de dissimuler avec constance un réel talent sous des dehors de prétention. Outre qu'elle est simple comme l'aneth ou le fenouil, Edith, Didi, comme l'avaient surnommé ses compagnes dans l'atelier de couture rabattu où elle fit ses pénibles débuts, ne tient pas en réalité au titre de noblesse, mais son physique appelle, de toute évidence, la particule. Et nous croyons savoir que l'on songe en haut lieu à la faire canoniser, dans quelque temps, sous les espèces de Marie-Édith, duchesse de Piaf. Elle interprète dans cette histoire pleine d'entrain une série de chansons nouvelles intéressantes et empreintes de la marque poétique, moderne, jaune et bleue, avec une initiale en relief. Nous citerons en particulier celle-ci. « Près de la cascade, au chant si doux », etc. Le menteur a été heureux de revoir, par surcroît, les longues jambes et la taille cintrée de Kay Francis, qu'une indisposition tenait éloignée de nos écrans depuis 5 ans. Elle n'a rien perdu de ses brillantes qualités, et l'on peut lui prédire une carrière intéressante si elle réussit à perdre cette espèce de sauvagerie latente qu'elle doit à son père, né à Brazzaville en juillet 1893. Elle pourrait, par exemple, entrer comme vendeuse au printemps. L'idée la plus audacieuse du scénario consiste en l'introduction de séquences qui se passent entièrement dans le noir et viennent reposer l'œil du spectateur. Elles s'intercalent régulièrement tout le long de la bande. Ainsi, on a pu doubler la durée de la projection sans augmenter sensiblement les frais de réalisation. Tout compte fait, il est apparu que la dépense supplémentaire atteint à peine 0,009% du prix d'une copie, soit 723 francs environ. Il est superflu d'ajouter que ces scènes en noir comportent une sonorisation para-affective dont il était curieux de noter l'effet sur le public au cours de la première. L'orgie nocturne, entre autres, a semblé particulièrement bienvenue. Ce procédé se répandra sans doute et nous en reparlerons. Notons incidemment qu'il eût été indiqué de l'appliquer intégralement au film « Madame et son flirt » où, à l'exception de l'orchestre, celui qu'on voit, il n'y a rien d'intéressant. Et à la bande inconsistante, Yvan le Terrible, insipide invention d'un vaudevilliste déchaîné.
Donc voilà, vous voyez le type de chronique qu'il faisait, assez humoristique. Et alors il a aussi pratiqué plusieurs genres donc littéraires, hein, que ce soit de la poésie, des documents, des chroniques, des nouvelles, des pièces de théâtre et des scénarios pour le cinéma. Alors son œuvre est une mine dans laquelle on continue de découvrir au XXIe siècle de nouveaux manuscrits. Sa bibliographie reste difficile à dater, lui-même ne datant pas toujours d'ailleurs ce manuscrit.
Oui, donc, on ne retrouve pas toujours la date, mais c'est vrai que c'était un travailleur infatigable, hein, manifestement. Malgré le fait qu'il n'ait, encore une fois, qu'il n'ait pas eu de succès, c'est quand même dur de réaliser qu'il n'a été connu qu'après, finalement, son décès, quoi. Plusieurs années après.
Alors là, je vous propose d'écouter tout de suite deux petits poèmes qui sont tirés d'un recueil qui s'appelle Cantilène engelée, qui est donc de 1949. Donc le premier poème, c'est À la colle, et le deuxième, c'est Le fond de mon cœur.
À la colle. Quand je suis né avec mon frère siamois, mon père siamois m'a dit, sans se retourner en regardant ailleurs, « Tout ça ne serait pas arrivé si ta mère siamoise n'avait pas été abonnée aux chasseurs français et au catalogue général de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne, Loire. Car les images de fusils à deux coups, à canon à coller, doublé, superposé, entrelardés, télescopés, soudés à mortaise et jumelés, ou même couplés d'une autre façon qui remplissent toutes les pages blanches, celles du début, d'où surgit soudain la gravure double des cartouches en couleur avec coupe ouverte sur les chevrotines bleues. Car les images, donc, dit mon père siamois, du catalogue général de la susdite manufacture lui ont déformé sa nature. Et le résultat, c'est toi, mon fils siamois. Il le prononçait au pluriel, alors je me suis mis à pleurer. Le fond de mon cœur, je vais être sincère, une fois n'est pas coutume. Voilà. Je serai content quand on dira au téléphone, s'il y en a encore, quand on dira V comme Vian. J'ai de la veine que mon nom ne commence pas par un Q, parce que Q comme Vian, ça me vexerait.
Ah, on le comprend bien, hein. Et oui, le catalogue Manu France, il faut rappeler que dans ce catalogue, effectivement, on voyait des tas d'objets manufacturés à Saint-Étienne, mais ce n'étaient pas des photos, hein, c'était des dessinés, les cartouches, les fusils, tout était dessiné. Donc c'était un recueil d'images incroyables.
Alors, parallèlement à ses études, Boris apprend à jouer de la trompette, la trombinette, comme il disait. Il s'inscrit au Club de France, présidé alors quand même par Louis Armstrong et Hugues Panassier, dès 1937. Et avec son frère Lilio, qui joue de l'accordéon et de la guitare, et son autre frère Alain, qui joue de la batterie, il monte une petite formation qui anime d'abord les surprise parties chez eux, qui étaient organisées, parce que comme il était d'une santé fragile, leurs parents avaient organisé, ils avaient un genre de salle des fêtes personnelle, et donc tout se passait chez eux pour les parents voulaient avoir l'œil sur ce qu'ils faisaient.
Ah oui, ils avaient une grande maison à Ville d'Avray, voilà. Hein, qu'ils ont perdu par la suite, hein, voilà, ruinée.
Et donc ils vont monter donc une petite formation, hein, donc ils font d'abord des surprises parties chez eux, mais en 1942 ils vont rejoindre l'orchestre amateur de Claude Abadie qui joue du Dixieland et qui s'efforce de sortir des sentiers battus et sempiternels des jams de règles chez les musiciens amateurs français. Donc 2 ans plus tard, le 10 janvier 1944, il va rencontrer Claude Luther et se joint à lui pour ouvrir un club de jazz, le New Orleans Club, qui ne fonctionnera que quelques jours à Saint-Germain-des-Prés. Ils n'avaient pas trop le sens des affaires.
Non, je ne crois pas.
Ils vont jouer ensemble plus tard au caveau des Lorientais et aussi au Tabou. Après la libération de Paris, on le retrouve avec l'orchestre Abadie, qui est considéré comme l'un des meilleurs orchestres amateurs de l'époque.
Dixieland. Alors, tu as parlé du Dixieland, c'est le jazz traditionnel, hein, ce qu'on appelle le early jazz, qui s'est développé dans la ville de la Nouvelle-Orléans, début 20e siècle, et puis ensuite à Chicago et New York.
Tout voilà. À fait.
Et puis tu as parlé de jams. Alors il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas ce que sont les jams. Tu peux peut-être le préciser ou je le fais.
C'est les boeufs, quoi. Voilà.
Les boeufs, voilà. On échange
avec d'autres musiciens et chacun joue son truc ensemble.
C'est bien, Mireille. C'était pour vérifier, pour voir si tu sais de quoi tu parles.
J'ai quand même fait quelques petites émissions sur le jazz.
Il me semble, hein.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite. Alors, un morceau connu, hein, The Check of Farabia. Et donc là, c'est Boris Vian et ses frères, Alain et Lélio. Alors, que je vous mette ça. Hop.
Le chèque. 1, 2. We'll be right back.
bah, je reprends la remarque pertinente que tu as faite hors micro. On comprend pourquoi par la suite, enfin c'est à peu près au même moment, pourquoi on a électrifié les guitares, parce que là effectivement on perçoit bien une guitare un peu qui joue la pompe manouche, mais il faut tendre l'oreille un petit
dans
peu
lointain.
Dans le lointain.
Bah, c'est-à-dire que les capacité d'enregistrement était quand même un peu plus primaire. Là, c'était en plus dans une
cave
de Saint-Germain-des-Prés.
Le micro devait être
amateur.
Voilà, le micro devait être un peu loin de la guitare.
Voilà. C'était dans les années 42 à peu près. Donc c'était pas. Voilà.
Bah, c'est pour ça que Django Reinhardt s'est mis à ce moment-là la guitare avec micro. Hein,
bah, oui,
qu'il a eu un peu de mal à dompter au début, puis à la fin, bah, évidemment, il y est arrivé.
Alors, puisqu'on parlait de Saint-Germain-des-Prés, il faut savoir que contrairement à une légende bien ancrée, hein, Boris Vian n'a pas créé Saint-Germain-des-Prés, hein, qui était symbole de l'existentialisme et des zazous. Et il n'était pas un zazou non plus, hein, d'ailleurs. Alors, si les frères Vian ont drainé le tout Paris au tabou, si l'on surnommait Boris le prince du tabou à partir de 1947, il ne participait que très rarement au bacchanal qui comportait l'élection par exemple d'une Miss Vice. Ou autre fantaisie. Voilà. Il préférait organiser rue du Faubourg Poissonnière des tartes parties qui réunissaient des musiciens de jazz.
Ouais, voilà. Le tabou, c'était le repère de Miles Davis et de Juliette Gréco. Hein. C'est aussi là qu'ils se sont connus tous les deux. Hein.
Et donc. Ce que je vous propose du coup, c'est d'écouter une petite interview de Boris Vian, justement, à Saint-Germain-des-Prés.
Rediffusion d'une émission Principe Actif.
Le animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux des gyrographies sur vos tombes, j'ai nommé Monsieur Boris Vian.
Tout ce que je fais, je le fais en toute innocence, que les gens sont souvent très surpris, évidemment. Je ne me rends pas
compte. Alors, les romans, un scandale.
Ah ben, vous comprenez, pour moi, ça n'a rien de scandaleux. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ça en toute innocence. Parce que vraiment, quand on parle des choses simplement et sans y attacher d'importance, on ne voit pas pourquoi les gens se choquent. S'ils se choquent, c'est vraiment qu'ils ont une mauvaise conscience, à mon avis.
Tandis que la vôtre est d'une limpidité.
Oh, d'une limpidité parfaite.
À nul autre part.